Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h avec Paul Lassène, avec Daniel Riolo, avec Emmanuel Dancourt et avec Pierre-Édouard Magnan. Avec vous également au 32-16, on vous attend pour parler de la ville de Pau qui teste une expérimentation conditionnée l'obtention du RSA à 15 heures d'activité par semaine. Est-ce que c'est une bonne idée à votre avis? Eh bien écoutez, on attend vos réponses au 32-16 et sur l'appli RMC. 14h30, il y aura RMC s'engage pour vous. On va essayer d'aider des clients de la banque Nickel, victimes de fraude. Et puis les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, Paul.
Oui, les pénuries d'essence qui s'étendent à l'Île-de-France, le salaire des joueurs de Ligue 1. Et on fera peut-être un point sur toutes les invitations qui vous sont lancées pour aller déjeuner ou dîner au Portugal.
Mais j'adorerais.
On fera le point.
Formidable. Malheureusement, je serai à ce moment-là dans la capitale de la gastronomie qui est la Bretagne. Donc je ne peux,
elle tient, hein.
Je ne peux pas être partout.
Elle y tient.
RMC Estelle Midi.
14h02 sur RMC, on va s'intéresser au test du jour. Ce test, il est lancé par l'agglomération de Pau en partenariat avec Pôle emploi. L'idée est de conditionner l'obtention du RSA à au moins 15 heures d'activité. Paul, ça va être quoi ces activités?
Oui, alors déjà cette mesure, elle va entrer en vigueur dans 18 départements en phase de test, comme à Pau à partir de la semaine prochaine. Et ce programme, il permettra de mettre en place des référents, des coachs personnalisés qui proposeront aux bénéficiaires entre 15 et 20 heures d'accompagnement par semaine. Au programme de ces accompagnements, des cours de français, des ateliers d'informatique, des formations, des stages en entreprise ou dans des associations culturelles ou sportives. L'objectif, c'est de ramener les bénéficiaires du RSA dans le monde du travail, explique le gouvernement. Une manière de retrouver pleinement sa dignité et sa place dans la société. Aujourd'hui, en France, 40% des allocataires du RSA sont inscrits à Pôle emploi seulement. Le but de cette mesure, c'est d'atteindre les 100%. Si les différents tests sont concluants, le dispositif sera ensuite élargi à l'ensemble des bénéficiaires. Mais attention, il n'y aura pas d'activité obligatoire. L'idée, c'est d'avoir un suivi renforcé, précise le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Un dispositif qui, avant même d'être mis en vigueur, fait déjà polémique. Le président du département de Seine-Saint-Denis a annoncé lundi qu'il refusait la mise en place de ce RSA sous condition, dénonçant une grave entorse à la République.
Alors, travailler pour toucher le RSA, d'accord, pas d'accord? Pierre-Édouard Magnan, vous qui êtes président du Mouvement National des Chômeurs et des Précaires.
Je ne vais pas vous surprendre, je suis évidemment pas d'accord.
Et pourquoi?
On reviendra sur le cas précis de Pau, puisque, vu ce qu'a d'ailleurs expliqué Paul, on constate en fait qu'on n'est plus tout à fait sur « il faut travailler pour toucher le RSA ». Dans les faits, c'est plus tout à fait ça, et d'ailleurs ça montre plutôt les lacunes totales de l'accompagnement des chômeurs et des précaires dans notre pays, d'ailleurs entre parenthèses, sur la conditionnalité. Le RSA est, à nos yeux, la matérialisation d'une espèce de revenu minimum de survie, qui, je dis bien de survie, hein, parce que je rappelle que quand même avec un peu plus de 500 euros par mois, personne ne vit correctement. Et même si 609. Vous ajoutez à ça un peu, si vous ajoutez à ça un peu d'APL et la complémentaire santé solidaire, puisque je sais que c'est évidemment tout de suite ce qu'on va m'expliquer, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui un célibataire au RSA ne vit pas mieux qu'un célibataire au SMIC, qui au demeurant ne vit pas bien. Et c'est aussi toujours aussi, on revient toujours aussi au sujet du dessus.
Mais celui qui est au SMIC, il travaille.
On est d'accord. Alors d'abord, pour avoir été longtemps directeur d'un, ce qu'on appelle un centre d'accueil de jour, y compris des publics de rue, je peux vous dire que je n'ai à peu près jamais entendu quelqu'un qui est arrivé en disant « moi je veux le RSA et je veux pas travailler ». On est dans un monde où, bah d'ailleurs je trouve ça un peu dommage, mais on considère que si on n'a pas une activité, un travail, on n'est pas, d'ailleurs on parle bien, retrouver la dignité par le travail. Moi je considère d'abord qu'un être humain il est digne par lui-même, mais on vit dans une société qui pense ça, et les chômeurs, les précaires, les allocataires du RSA, puisque c'est dont on parle, pensent exactement la même chose. Donc si évidemment on me dit au lieu que les gens soient RSA, on va leur permettre de travailler avec un emploi digne, payé dignement, j'ai aucun problème, et eux non plus d'ailleurs n'auront aucun problème avec ça. Le seul sujet c'est que là on dit vous avez un droit, car j'appelle que le RSA est un droit, c'est-à-dire que je n'ai plus d'activité, je n'ai plus aucun revenu. La société me donne un minimum, c'est un droit. Or, conditionner ce droit, ça veut dire que, alors, je répète, si on va dans le RSA condition, on va faire travailler des gens, de fait, gratuitement, puisque, d'abord, on va les faire travailler sans acquérir de droit. Je rappelle qu'au RSA, on ne cotise à rien. cotise pas à la retraite, on ne cotise d'ailleurs pas au chômage, et pour cause, on ne cotise effectivement à rien, et derrière, si on fait travailler ces allocataires récents, on va leur faire faire quoi comme boulot? On va leur faire faire la sortie des écoles? C'est déjà aujourd'hui des contrats aidés. Ça veut dire qu'on va transférer les contrats aidés vers des allocataires du RSA.
Il y a des pénuries dans plein de secteurs. Donc
et vous allez mettre des allocataires du RSA demain en disant, tiens, allez donc faire le serveur dans un hôtel-restaurant.
Mais peut-être que tu peux leur faire une formation.
Alors, attention, mais là,
c'est quoi le A de RSA?
Le RSA, c'est activité, le I de RSA, c'était insertion.
Activité.
Le truc, c'est que pour ça, il faut avoir de l'activité abrosive, il faut s'occuper des gens. Moi, j'aime beaucoup ce chiffre qui a été mis là. Depuis que même à l'époque du RMI, créé en 1989, à l'époque déjà, tous les allocataires devaient être inscrits à l'époque à la NPE et on a fait le truc. Ça n'a jamais été le cas, d'abord y compris parce qu'aujourd'hui, Pôle emploi, il n'en veut pas des allocataires du RSA. Oui. 40% d'allocataires, ça veut dire que vous allez remettre 60% d'allocataires du RSA dans Pôle emploi. La conséquence politique, c'est quoi? Vous allez faire exploser à nouveau les chiffres du chômage, on va arrêter de nous expliquer que le chômage baisse. Pôle emploi n'en veut pas, il ne sait pas quoi
d'accord,
en faire.
Mais on peut peut-être aider les gens à retrouver un travail, Pierre-Edouard,
oui,
je comprends
mais
pas. Je
vous
comprends
ne mettrez pas,
en fait.
Ça ne marche pas parce que vous. Non, mais là, mais aider les gens à retrouver un travail, oui. Et effectivement, c'est pour ça qu'en fait, quand on constate le détail, on n'est pas. Dans, on ne vous dit pas, vous allez bosser 20 heures et en échange, vous aurez votre RSA. En fait, on va vous intégrer dans un dispositif d'accompagnement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'on ne dise pas le RSA sous condition. Le RSA nécessite effectivement un travail d'accompagnement. Les gens sont sans emploi. Certains sont même extrêmement
éloignés. C'est la condition qui gêne.
Voilà. C'est la notion.
C'est le fait que ce soit.
C'est la notion de conditionnalité, parce que quand on dit ça.
Ça, voilà. Mais là, je comprends. Parce qu'au départ, c'est vrai, je suis un peu comme Estelle. Je comprenais pas trop parce que j'ai lu une histoire en préparant ce thème où c'est vrai qu'une personne disait. Bah moi j'ai trouvé ça formidable de retrouver un petit peu le terrain pour avoir un petit peu ce goût du travail, ça m'a redonné envie parce que cette personne se sentait un petit peu endormie par le fait de rester sans rien faire avec le RSA
et sans solution.
Bah voilà. Donc j'avais trouvé que l'histoire était intéressante. Il m'avait pas semblé en préparant ce débat qu'il s'agissait de dire le RSA on vit bien avec le RSA c'est formidable ou quoi que ce soit, mais que ça pouvait être évidemment
il y a plein de gens qui disent ça.
Non mais la notion de conditionnalité, j'entends bien qu'elle te gêne et effectivement c'est plutôt gênant, mais que ça puisse fais-le, mais tu sais c'est pas mal si pendant 10 heures dans la semaine ça représente quoi 15 heures dans la semaine par jour. C'est 2-3 heures.
2 heures sur 7 jours.
Voilà, tu vas un peu au contact du travail, tu retrouves goût déjà à la sociabilité, au fait de sortir et tout. Je trouvais que c'était intéressant. Donc j'entends ce que tu dis, mais je ne voyais pas réellement ce qu'il y avait de totalement négatif là-dedans. Sauf si on lui dit, si tu ne vas pas, je te le retire.
Alors c'est ça. Emmanuel Dancourt.
Ce qui a été le cas dans certains départements d'ailleurs. Ce qui semble ne pas être le cas dans l'expérimentation.
Oui, parce que là, en plus, c'est une expérimentation, c'est plutôt intéressant. Oui.
Exactement.
Non, mais je vous en prie, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, parce que Pierre-Edouard, tu as une analyse de sachant, très approfondie. Moi, je suis plus sur l'exemple. Je sais très bien de quel exemple tu parles, Daniel. Il s'agit d'une dame qu'on a mis dans une cantine et qui fait le ménage. Elle est passée au journal télévisé cette semaine, et puis elle était dans pas mal d'articles. Et elle, dans son cas, je comprends, c'est une femme assez jeune, qui a l'énergie, le corps pour, etc. Et ça a été un retour à l'emploi. Et je comprends l'intention qu'il y a derrière. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que ça ne peut pas concerner tous les RSA. J'ai quelqu'un au RSA dans ma famille qui a des gros problèmes physiques et qui ne vit pas bien du tout. On ne va pas se mentir, le frigo est vide. Puis 3 enfants, quoi. Mais tu ne peux pas remettre tout le monde au travail. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce cas-là. À un moment, il n'a pas dit juste un RSA sans condition. C'est quelqu'un, si tu lui donnes pas.
Tu le laisses comme ça.
Non, mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'a dit Paul, c'est l'accompagnement. On va reprendre contact avec tous ceux qui ont le RSA, si j'ai bien compris. Et on va voir où ils en sont, on va reprendre contact. Mais moi, j'aimerais bien entendre que dans certains cas, ça va pas être possible le retour à l'activité.
Oui, mais quand tu parles quand tu parles de quelqu'un de ta famille et qui peut pas revenir à l'activité, mais si on l'aide, si on l'incite,
C'est des problèmes médicaux assez graves qui fait que cette personne a déjà du mal à faire ses courses.
Mais là, c'est particulier.
Il va falloir embaucher du monde à Pôle emploi. Hein, parce qu'on va parler d'un bon million de personnes qu'il va falloir réaccompagner. Ce que c'est bien de dire, ça veut dire qu'il faut mettre des gens en face. Aujourd'hui, aujourd'hui, le problème, c'est aussi pour ça que beaucoup de conseils généraux ne veulent pas y aller. Parce que derrière, il y a évidemment des problèmes politiques et des problèmes de gros sous. C'est que l'État dit aux départements, parce que c'est les départements qui ont, entre guillemets, la tutelle des allocataires du RSA, l'État dit, c'est le fameux projet France Travail, c'est ça la grande maison qu'on veut faire au-dessus, dit au département on va faire France Travail, en gros les départements c'est vous qui allez payer mais vous allez faire comme moi je veux et surtout vous allez embaucher les gens pour les accompagner parce qu'évidemment accompagner les gens ça veut dire qu'il faut remettre en face. Or aujourd'hui les départements disent très bien mais on paye comment, qui les paye ces gens-là? Et donc il y a encore en plus un effet de marché de dupes, on met les gens au RSA au milieu en disant il faut les accompagner, très bien, on va le mettre sous condition, pas bien, mais dans les deux cas il y a aussi un énorme problème, c'est qui on met en face, quelle structure, quelle personne on met pour effectivement accompagner les gens. Et aujourd'hui il n'y a pas de réponse de l'État qui fait des grands moulinets, mais qui met pas en place les moyens nécessaires.
Et au-delà de ça, moi, la question, j'ai une amie qui est au RSA, qui est dans un métier de, qui est journaliste, et qui cherche du boulot. Elle fait pas semblant, elle cherche du boulot. Pour l'instant, elle a que le RSA pour survivre. Je la vois pas, franchement, parce que toi, tu parlais des métiers en tension, des métiers où personne veut aller, finalement. Enfin, quand t'as une vocation dans le médical, qu'est-ce que tu vas aller faire un boulot pour lequel t'es pas formé, que t'as pas envie de faire, ce que toi, t'as envie de retrouver dans ta branche,
quoi. Je suis désolée, enfin, moi, Manuel, ça me pose question. Mais là se pose un problème. C'est-à-dire que si jamais tu trouves pas de boulot, qu'il y a pas de boulot, il y a pas de boulot. Bah, si ta copine elle est journaliste et qu'effectivement elle ne trouve pas de boulot, que ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle trouve pas de boulot, enfin à un moment se pose la question de est-ce que tu préfères vivre au crochet de l'État alors que tu es parfaitement apte à travailler parce que le boulot ne te plaît pas, ou est-ce que tu te dis je vais peut-être faire une formation puis je vais éviter de vivre au crochet de l'État puis je vais travailler. Ça aussi c'est une question quand même, Emmanuel. En fait. Oui, à un moment, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, quoi. Parce que là, c'est pas des problèmes de santé. Ta copine, c'est parce que, simplement, elle estime qu'elle a envie de faire ça. Mais si ça marche pas, elle va attendre 20 ans à attendre une pige. Alors, ça, le problème.
Alors, d'accord. Là, on est dans un cas très particulier, parce que c'est quelqu'un dont la réputation a été tuée par une affaire judiciaire célèbre. Oui, donc voilà. Donc, il y a vraiment des cas. Moi, ce qui me gêne dans l'histoire, c'est le 100%.
C'est pas quelqu'un qui a pas envie de bosser.
C'est pas quelqu'un qui a, mais c'est ce qui me gêne, c'est le 100% des cas.
Ils existent, mais ils sont rarissimes.
Non, mais que t'aies une passion pour un
ceux
métier,
qui veulent pas
tu
bosser.
Veux pas en faire un autre,
oui,
j'entends.
C'est
mais tu peux au moins faire des formations.
Oui, je suis assez d'accord, c'est anecdotique ceux qui veulent pas bosser.
Ceux qui veulent pas bosser, c'est une anecdote. Alors évidemment, Macron, qui n'est pas une ordure, et tous les autres politiques adorent effectivement nous sortir le cas, mais j'ai l'habitude moi de répondre, moi aussi on va tous me retrouver une grand-mère de 100 ans qui a fumé toute sa vie. On m'expliquera jamais, aucun médecin va m'expliquer que pour jusqu'à 100 ans il faut fumer. Donc, on me trouvera toujours. Voilà, mais c'est un mythe. On est dans une société où le poids de l'emploi est tellement. Mais c'est pareil sur la formation.
Combien de personnes qui reçoivent le RSA?
Le RSA, on est à, j'espère pas dire de bêtises, je crois que. J'ai peur de dire une bêtise.
On va chercher.
Alors, c'est réellement une anecdote. Vraiment, hein, je te crois si tu me le dis. Le gars qui refuse d'aller au travail parce qu'il se dit de toute façon ça ne me plaît pas, je n'ai pas la formation adaptée pour, et je vais me contenter de ça en glandant chez mes parents ou à droite à gauche.
3,8 millions.
C'est ça. Oui.
Ouais, c'est énorme.
Il faut absolument qu'on remette ces gens au travail parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi.
Et là-dedans, tu vois qu'on a 60% qui ne sont pas considérés comme étant chômeurs. Quand on dit que le chômage baisse, on t'en enlève 60%.
Évidemment.
Et sache que
c'est pas ma 3
millions 8...
C'est 5,8% de la population française.
C'est ça. Et 3 millions 8, ça n'est en fait que 65% des gens qui y auraient droit. Il y en a 35% de plus qui ne le demandent pas.
Et t'as aussi plein de gens qui sont au RSA, mais ça dure un an et puis après ils retrouvent un boulot. On n'est pas au RSA à vie, et ça aussi il faut le dire. Et il y a plein de gens qui se battent pour retrouver un emploi et qui font des formations. On est avec Patrick qui nous appelle de Francazal en Haute-Garonne. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Patrick. Est-ce que pour vous il faut verser le RSA en échange, on va dire d'une activité, d'une formation ou encore d'un travail?
Moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée.
Alors, d'accord.
Pour moi, effectivement, le RSA, c'est pour aider les gens. C'est fait partie de la France ne laisse pas les gens sur le carreau. Donc, on a du social en France. C'est génial. C'est super. Il faut le garder. Il faut aider les gens qui sont dans la misère, dans la merde, qui sont malades. Le problème, c'est qu'effectivement, on voit bien que notre enveloppe budgétaire, on a de plus en plus de difficultés. Il va falloir à un moment, pour garder les aides sociales et qu'on continue à aider les gens dans la misère et qui ont des problèmes, il va falloir à un moment, effectivement, à tous les points, il va falloir aussi voir ceux qui abusent. Alors, bien sûr, c'est anecdotique sur 3, et quelques millions, mais ça représente certainement au moins quelques centaines de milliers de personnes. Moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens, j'habite près des Pyrénées, c'est des régions comme la Lozère et tout, et il y a énormément de gens qui ne travaillent pas par conviction. Beaucoup, c'est pas qu'un peu. Donc, il y a un moment, effectivement, le RSA, pourquoi il devrait être versé à vie? Alors, on aide pendant 2 ou 3 ans les chômeurs qui ont perdu un emploi totalement normal. Ensuite, le RSA prend le dessus. Effectivement, le RSA pourrait être versé pendant 3, 4, 5 ans. Et ensuite, si une personne ne reprend pas un emploi, c'est bien souvent soit elle a vraiment un handicap, elle est malade. Donc, dans ce cas-là, ces gens-là ne sont plus RSA, deviennent soit travailleurs handicapés, soit malades longue durée. Dans ce cas-là, ces gens-là méritent bien plus que 500 et quelques euros, je ne sais plus de combien est le RSA. Il faut beaucoup plus aider les gens qui qui ont vraiment un problème physique ou autre, mental ou malade. Mais par contre, les personnes qui ont fait un choix de vie, qui ont décidé de ne pas travailler, c'est un choix. Et la société ne doit pas maintenir à vie et au vita aeternam des indemnités à des gens qui ont fait un choix. Donc moi, je mets bien... Par contre, je suis pour aider beaucoup plus les gens qui ont des réels problèmes. Voilà. Mmh. Voilà. Donc, on en donne un peu moins à ceux...
Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Patrick. Hein. Ça mériterait une étude, une reprise en main de tous les allocataires.
Ben, en fait, c'est ça. Ce que vous dites, Patrick, c'est qu'il faudrait aller presque au cas par cas sur les 3 800 000. Mais allocataires du RSA, et voir...
Pour le paquet sur l'accompagnement, il faut le mettre justement plutôt dès le début. Vous savez, nous, on s'est beaucoup battu parce que à Pôle emploi, quand vous vous inscrivez, vous pouvez des fois attendre 3 mois, 6 mois, 9 mois avant de voir votre conseiller pour la première fois. Or, on sait bien de manière statistique que plus on s'active, moins on a été de temps chômage, plus on trouve du boulot facilement. La courbe, elle est absolument phénoménale. Et donc, c'est surtout au début de la perte d'emploi, alors y compris des fois, ça peut être des drames, y compris des drames personnels. Parler d'une usine Buitoni qui ferme, c'est les gens, je vais être au chômage, comment je paye la maison, c'est tout ça qui va derrière. Mais c'est effectivement au début qu'il faut mettre le paquet, parce que quand vous avez été éloigné de l'emploi, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne sais pas s'il y en a de mauvaises, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, évidemment que le retour à l'emploi, il est encore plus difficile. Et qu'en plus, quand sur votre CV, on voit ça, vous êtes ultra discriminé pour l'embauche. Il n'a pas bossé depuis 5 ans. Même si les gens sont pas mal intentionnés, votre CV, il va passer derrière celui qui a perdu son boulot il y a 3 mois.
Oui, ça c'est malheureusement une évidence. Des messages également, Paul, sur l'application RMC.
Oui, ce message de 7, déjà que Pôle emploi n'aide réellement que 10 à 15% des inscrits. Si on leur envoie le RSA, en plus, ça va être le carnage. Il faudrait déjà accompagner 100% des inscrits. Et après, on verra pour cette mesure. Et ce message de Chris, je trouve l'idée de demander aux demandeurs du RSA de travailler en contrepartie bonne. Cela va permettre aux allocataires de s'intégrer dans la société, de découvrir de nouveaux métiers et aussi de verser le RSA à ceux qui veulent vraiment se réinsérer.
On est avec David qui nous appelle des Côtes d'Armor, qui nous appelle du Vieux-Bourg et qui est au RSA justement. Bonjour David.
Oui, bonjour Estelle.
Alors c'est très intéressant de vous avoir David, parce que justement vous êtes au RSA. Est-ce que vous accepteriez David de toucher le RSA sous condition, c'est-à-dire d'avoir une activité pendant 15 heures par semaine ou une formation?
Tout à fait, c'était le but de mon appel. Et alors si je peux me permettre Estelle, je fais une petite aparté. Déjà je suis très heureux de vous avoir, c'est la première fois que je me permets d'appeler.
Vous faites bien.
Je fais un petit bonjour à tous vos intervenants, parce qu'en plus c'est les 3 que j'adore.
Ah bah écoutez, merci.
Et un petit bonjour à Daniel, et s'il peut passer un petit bonjour à Géraldine, voilà.
Ok David, ce sera fait tout à l'heure.
Message personnel. Ouais,
non, mais sans arrière-pensée.
Ok David, ce sera fait.
Est-ce que je peux vous demander, David, c'est peut-être très indiscret, vous me répondez si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas, vous ne me répondez pas. David, pourquoi est-ce que vous êtes au RSA? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour être au RSA aujourd'hui?
Alors, je vais résumer, mais ça va être très compréhensif, je pense. En fait, j'ai 30 ans de maçonnerie derrière moi, donc je ne pense pas être un feignant. Et puis, en fait, il s'est passé il y a quelques années, un choix personnel, je voulais me reconvertir. J'ai décidé d'arrêter la maçonnerie pour me lancer dans mon nouveau projet. Et ensuite, il m'est arrivé un accident, deux accidents personnels, on va dire. D'accord. Un maladie et un divorce.
D'accord.
Voilà. Qui est toujours pas réglé et qui se passe très mal. Et donc, de par le fait, en fait, j'ai tout perdu. J'ai perdu logement, voiture, tout ça, et je me suis retrouvé SDF. Là, aujourd'hui, ça va mieux dans le sens où j'ai réussi. Je vis dans une caravane, donc je me plains pas. Mais tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis complètement, moi, d'accord avec le fait que le RSA soit sous condition.
D'accord.
Parce que moi, dès que j'ai entendu parler de cette mesure qui pourrait s'appliquer, je me suis réinscrit à Pôle emploi, patati patata, après que je sois sorti de la rue, en fait, je me suis réinscrit à Pôle emploi.
Absolument. Vous avez vécu ça comme presque, si je comprends bien, vous avez vécu ça presque comme une forme d'espoir, parce que vous vous êtes dit, si on me dit ça, ça veut dire qu'on va m'aider à retrouver du travail.
Complètement.
Ah d'accord, je comprends la démarche. Okay.
Complètement. Et je trouve même que après, même au sens moral, je trouve que c'est une très bonne chose dans le sens où je pense qu'en France on est suffisamment bien aidé. Et donc je trouverais normal que quand on profite de l'argent public, qu'on puisse contribuer un petit peu. Je pense que c'est la moindre des choses. Donc pour revenir sur mon cas personnel, j'ai beaucoup insisté auprès de ma conseillère pour l'emploi en disant bon ben écoutez moi je veux trouver moi quelque chose, enfin moi je veux participer, je veux qu'on me trouve 10, 15, 20 heures de boulot par semaine pour justement éventuellement apprendre quelque chose ou pour justement repartir sur mon idée de reconversion. Et donc sauf que en fait, j'ai chaque fois des portes fermées dans le sens où, ben non, on n'est pas prêt, on ne sait pas faire.
D'accord. Mais donc là, le nouveau dispositif vous aiderait en fait. C'est ça que vous dites, David, c'est que pour le coup, là, vous seriez vraiment aidé et vous pourriez peut-être réaliser votre projet. David, on va en profiter. En plus, vous êtes très drôle. Qu'est-ce que vous cherchez comme boulot là dans les Côtes d'Armor?
Ah mais à la limite, moi, je pour le coup, si c'est pour le alors, si je veux revenir à mon idée de reconversion, en fait, à la base, je voulais ouvrir un food truck.
D'accord.
Je suis un passionné de cuisine.
Bah, super. Donc, en fait, attendez, c'est un métier où il manque de main en plus.
Voilà. J'ai fait les choses dans l'ordre en demandant à la base une formation de base en cuisine. Sauf que pour espérer une inscription à une formation de cuisine, il faut simplement déjà avoir un stage d'intégration à l'entreprise.
D'accord.
Sauf que je n'arrive pas à trouver ne serait-ce qu'un stage d'une semaine. De par plusieurs raisons, parce que alors déjà bon, je suis à mobilité réduite dans le sens où j'ai pas de véhicule.
Ah oui, mais ça vous avez raison d'en parler. Bah oui, c'est évidemment c'est un frein, c'est sûr que quand on n'a pas de véhicule et dans les Côtes d'Armor en plus c'est compliqué. Ça, c'est il y a pas beaucoup de transports en commun quoi.
Voilà, là où je suis en plus, je suis en plein cœur des terres, je suis au milieu de Saint-Brieuc et Guingamp.
Ah non, mais je vois tout à fait, David. Non, mais c'est je veux pas dire que c'est un no man's land,
mais vous êtes vraiment en plein milieu des pays des crêpes.
Mais il y a même pas un bus, si tu veux rouler, c'est en tracteur, mais c'est horrible.
C'est exactement ça. C'est pour ça que je savais, Estelle, que vous saviez à peu près la localisation.
Bah, tout à fait, oui. Bah, oui. Donc, mais David, on va vous aider. Voilà, même si c'est pas un food truck, mais au moins, il doit y avoir pas mal de restos dans les Côtes d'Armor. Et au moins pour cet été, ils cherchent toujours de la main-d'œuvre pour vous aider, David.
On peut pas avoir des restaurateurs qui nous appellent régulièrement pour dire qu'ils trouvent pas de main-d'œuvre.
Bah, bien sûr, mais non, mais David, voilà, vous êtes dans les Côtes d'Armor.
Il y a un problème.
Vous n'êtes pas motorisé, mais vous avez votre permis, David.
Ah oui, je l'ai depuis l'âge de mes 18 ans et j'ai toujours eu mes 12 points.
Alors si vous êtes restaurateur, si vous avez besoin de main d'œuvre dans les Côtes d'Armor, il y a David, il est super, il est drôle.
Et comment il fait pour nous contacter, le monsieur?
Eh ben, on nous contacte sur RMC et nous on transmet à David, on va prendre ses coordonnées et puis on va tout faire pour vous aider.
Et
David,
si jamais ça marche, je veux le savoir.
Exactement. Et vous nous donnez des nouvelles, David?
D'accord. Ben merci beaucoup, c'est très gentil. Et encore bravo à votre équipe.
Merci David.
Et merci David et bon courage pour la suite. Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, par le cas de David est extrêmement révélateur. C'est là où on voit que, parce qu'on dit toujours les gens au RSA. On a l'impression qu'en fait tout le reste fonctionne, puis juste ils ont pas de boulot, pas de revenus, ils ont le RSA. Mais non, c'est des vies entières, c'est des situations personnelles. Et à un moment, et en plus il est passé par la rue, donc là on est vraiment au stade, j'allais dire, le extrême de la précarité. On voit à un moment la maladie, le problème familial et boum la rue. Et c'est là où on voit qu'on est dans des situations globales et qu'on peut pas juste traiter en disant il y a les gens au RSA comme si tout le reste allait et qu'en fait c'était juste faut les mettre au boulot. Et je trouve là-dessus que le témoignage, bravo à la régie, je trouve que le témoignage est particulièrement éclairant et au demeurant la demande d'accompagnement et d'être aidé, c'est-à-dire lui ne demande pas à rester dans sa caravane et attendre que le temps passe. Oui. Vous aurez noté le j'ai réussi à sortir de la rue en revenant dans une caravane. J'aimerais qu'on analyse tous bien ça quand on a un toit sur la tête. Enfin c'est quand même ça, je trouve que ça fait relativiser beaucoup de choses.
Mais vous avez bien raison, Pierre-Edouard. Et le problème, effectivement, alors il a parlé de divorce. Il y a beaucoup de divorces qui se passent mal, effectivement, qui mènent à des situations insoutenables. Et puis également, il a parlé du manque de moyens de locomotion. Et ça, bien sûr, quand
la mobilité est un drame.
On est rarement au RSA, c'est pire qu'en ville. À Paris 6e arrondissement. Hein, donc,
vaut mieux être au RSA à Paris qu'en pleine campagne.
On est entièrement d'accord. Malheureusement, c'est souvent la plupart du temps en pleine campagne. Et c'est des régions où il y a pas de transport commun.
Il y avait un autre petit souci. Il avait vraiment pas un accent breton.
Il n'y a pas d'accent breton. Donc la Bretagne est une terre de gastronomie.
Il avait un accent du sud et il est en Bretagne.
Il a changé de mer.
On va terminer avec Johan qui nous appelle des Ardennes, Bonny sur Meuse et qui est éducateur spécialisé. Bonjour Johan.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous,
Bonjour. Bonjour Johan, vous côtoyez beaucoup de gens au RSA, Johan, en tant qu'éducateur spécialisé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure, justement?
Alors, en tant qu'éducateur spécialisé, oui, mais je suis surtout président d'un centre social. Donc, d'accord. Je suis partie d'une entreprise sociale, enfin bref, okay. Une association qui accompagne les bénéficiaires du RSA sur le territoire. Alors, suite à un marché public du département, hein, on est vraiment sur quelque chose d'établi, des choses qui sont établies sur tous les départements, je pense, en France. C'est le contrat d'engagement pour les bénéficiaires du RSA. Il y a toujours eu un contrat mutuel. Et en fait, on fait des accompagnements de 300 personnes en file active par mois. Donc, ça veut dire à l'année, vous imaginez. Donc, on a au moins toujours 300 personnes à l'accompagnement. Et en fait, l'idée de dire, c'est qu'il y a déjà énormément de demandes qui sont faites aux bénéficiaires du RSA et déjà des choses qui sont posées depuis très longtemps et qui ne sont pas d'aller travailler forcément, effectivement. Il y a tellement de freins à lever, comme vous l'avez tous dit depuis tout à l'heure, que c'est assez compliqué. Mais en fait, il y a déjà des choses d'établies et je trouve que c'est un peu, comment dire, c'est un peu encore un leitmotiv, enfin un petit slogan qui est envoyé, Monsieur Macron, lors de la dernière
présidentielle,
essayer de leur proposer dans son programme, et ça fait un petit flop parce que pour l'instant il n'y a rien qui est encore établi sur ce.
C'était le problème de Valérie Pécresse notamment. C'était exactement le programme de Valérie Pécresse.
Mais ça n'a jamais été mis. Ça n'a jamais été mis en place. Parce qu'il y a déjà des choses et qu'on est face à des gens qui sont extrêmement éloignés de l'emploi. Nous, on a un escalier d'accompagnement vers la réinsertion. C'est-à-dire qu'on a déjà trois dispositifs différents qui ramènent de plus en plus vers l'emploi. Ceux qui finissent chez nous, ils vont en chantier d'insertion. Ils bénéficiaient des contrats aidés qui ont été supprimés en grande partie ces dernières années. Et ça permettait de faire déjà des approches d'emploi avec des accompagnements spécifiques. Et donc, c'est un peu facile de parler tout de suite de l'emploi. Effectivement, les problèmes de mobilité, moi, dans les Ardennes, ancien territoire métallurgique, en déshérence, on a 20% de gens qui n'ont pas de niveau CAP, qui n'ont même pas ce niveau-là. Oui. Et donc, effectivement, on est quand même, c'est un peu facile. C'est juste ça. C'est un peu facile. Et il y a plein déjà de dispositifs. Et territoire zéro chômeur aussi, je voulais vraiment vous dévoiler.
Oui, bien sûr. Et Pierre-André, on a parlé, évidemment. Mais, ce que vous dites est effectivement intéressant. Ça sent quand même la fausse bonne idée. C'est-à-dire que tout le monde se dit, ah oui, c'est malin. Mais, voilà, l'idée, c'est de les accompagner et de former. Mais trouver un emploi tout de suite, ça paraît effectivement, très compliqué. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter. Alors. D'Estelle Midi, travailler pour toucher le RSA. D'accord, pas d'accord.
Eh bien, c'est très, très, très partagé. On peut parler de votre fameuse marge d'erreur, puisque d'accord à 52%, pas d'accord à 48%.
Ouais, donc c'est quasiment une égalité. Dans un instant, RMC s'engage pour vous. On va tenter avec Amélie Rosic d'aider des clients d'une banque qui s'appelle Nickel et des clients qui ont été victimes de fraude. À tout de suite sur RMC.
C'est midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h31 sur RMC, RMC Story. Vous êtes bien sûr dans Estelle Midi et c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour sur RMC. Voici RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie Rosic, on va tenter d'aider des auditeurs qui détiennent des comptes bancaires dans la banque Nickel, qui pour le coup n'a pas du tout été Nickel, puisque ces auditeurs ont été victimes. C'était facile. Ont été victimes de fraude.
On va se reconcentrer parce que c'est très sérieux. Nickel, c'est une alternative aux banques classiques, ce qu'on appelle les néobanques, l'équivalent d'un compte qui peut être ouvert sans condition de ressources, en revanche sans découvert et sans crédit possible non plus. Eric est l'un de leurs 3,5 millions de clients revendiqués. En juillet dernier, il regarde ses relevés un soir, comme il a l'habitude de le faire, et puis il remarque des lignes de débit invraisemblables qui ne correspondent en rien à ses dépenses.
En une heure, j'ai eu 146 prélèvements, aux alentours de 80 centimes. J'ai, dans un premier temps, appelé la banque, fait opposition à ma carte, et après, j'ai déposé plainte. Je leur ai fait des rappels à la loi, et c'est resté sans retour.
Au total, il y en a pour près de 90 euros, et pour Eric, c'est beaucoup, puisqu'il touche l'allocation adulte handicapé et vit avec moins de 1000 euros par mois, donc 90 euros, ça fait beaucoup dans le budget. Mais la banque refuse de le rembourser, parle d'un problème commercial, conseille à Eric de contacter le commerçant. Commerçant qu'il ne connaît pas, vous avez bien compris, parce que c'est une fraude.
Oui, évidemment, mais ça c'est oui. Amélie, le problème c'est qu'Eric n'est pas le seul à vous avoir écrit, ça n'est pas arrivé qu'à lui, ça.
Ah non, pas du tout. Cet auditeur nous ont alerté ces derniers mois, tous clients chez Nickel, ils dénoncent des refus de remboursement suite à des fraudes. Et en quelques clics, que sur Internet, je vais être très honnête, ça nous a pas pris beaucoup de temps. On trouve des tas de forums qui décrivent les mêmes cas de figure. Un groupe sur Facebook réunit même 16 000 clients qui s'estiment lésés. Oui, 16 000 pour des montants allant jusqu'à 4 000 euros. Et les litiges sont si nombreux que l'association UFC Que Choisir, saisie par des consommateurs, a porté plainte en juin dernier contre Nickel et 11 autres banques pour pratiques commerciales trompeuses, précisément pour ce problème. Mathieu Robin est expert banque assurance.
Bien souvent, eh bien, les banques vont systématiquement répondre que le consommateur a été négligent ou qu'il avait validé le paiement sans en apporter la preuve. Et ça, c'est pour nous une pratique commerciale qui est tout à fait détestable, hein, dans la mesure où elles ont l'obligation aujourd'hui d'apporter des éléments de preuve démontrant que le consommateur a été négligent ou qu'il est bel et bien à l'origine du paiement. Et si elles ne le font pas, eh bien, elles sont dans l'illégalité, ce qui effectivement est un préjudice important pour les consommateurs qui se croient sans droit, alors qu'effectivement la réglementation, elle, est censée être bien faite.
Amélie, évidemment, vous avez contacté la banque Nickel. Que vous répond-elle ?
Elle rejette la faute sur les clients et invoque des négligences bien pour sûr. Expliquer les refus de remboursement. C'est précisément ce que dénonce le monsieur de UFC Que Choisir que vous venez d'entendre, Mathieu Robin. C'est-à-dire que ces banques-là, Nickel en fait partie, dit bah non, il y a eu une négligence du client, donc on n'est pas tenu de rembourser.
Négligence, bien sûr.
Voilà, sauf que c'est la loi. Lorsqu'il y a négligence de la part du client, la banque doit en apporter la preuve. Donc vous l'avez bien compris, en fait, c'est la charge de la preuve incombe à la banque. Et en l'occurrence, par exemple pour Eric, bien Nickel n'a pas apporté la preuve que c'était bien lui qui aurait commis une négligence. Je vous rappelle quand même qu'il a eu 146 débits en moins d'une heure de 80 centimes. Bon, voilà. Oui. Voilà. Mais comme on fait, vous le savez, des petits miracles de temps en temps, hein, RMC s'engage pour vous. Bon, bah là, on en a fait un. On est quand même contente de pouvoir annoncer une bonne nouvelle. Suite à notre intervention, notre auditeur Eric a été remboursé de ses 90 euros hier, avec quand même 8 mois de retard, donc on a réclamé des pénalités de retard à la banque. Bah, on attend toujours leur réponse, mais on va continuer à les suivre. Et puis alors, pour la petite anecdote, les 90 euros lui ont été remboursés exactement de la même manière qu'il lui avait été prélevé, c'est-à-dire en 144 prélèvements, enfin crédit au crédit de son compte, de 80 centimes. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis, à noter quand même, depuis ce matin, la chronique était diffusée, j'étais en direct, pardon, à 7h08 avec Apolline de Malherbe, et bien on a déjà reçu 3 mails d'auditeurs pour dénoncer exactement les mêmes faits. L'un pour un préjudice de 200 euros, l'autre de 500 et une autre pour un préjudice de plus de 10 000 euros tout de même.
Oui.
Donc a priori, on devrait en reparler de Nickel, je crois.
Et rappelons quand même que la banque Nickel, c'est pas juste une bande d'épiciers dans un coin, ça a été créé par Jean, mais ça appartient à BNP Paribas quand même.
À 95% oui. Et voilà. Encore à 5% par la consommation.
On est en difficulté en ce moment, BNP, si vous avez suivi l'actualité.
C'est une banque qui a pignon sur eux, exigence, etc. On s'attendrait qu'ils mettent un peu d'ordre dans leur filiale, parce que 95%, ça s'appelle une filiale.
Oui, tout à fait.
Bah, bravo pour ce petit miracle, Amélie. Il en reste 15 999 autres à le faire, puisque mais 16 000 clients ont été lésés.
Mais il y a 24 heures dans une journée, 7 jours par semaine. Faites le calcul, je vais y arriver.
Hein. Oui, bon, on va faire le calcul pour vous. Bah, normalement, vous devriez savoir ça. On
essaye de n'en prendre que 5 pour dormir.
Ouais,
okay. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Amélie Rosic et puis bravo plus. D'avoir en tout cas réussi dans ce dossier et puis d'avoir réussi à rembourser Eric. Si vous aussi vous avez un gros souci, vous n'hésitez pas à vous contacter Amélie Rosic et toutes ses équipes RMC pour vous @rmc.fr et Amélie essaiera de vous aider dans un instant. Les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec quoi, Paul?
Le refus du jour, EasyJet qui refuse certains clients à bord, et on parlera des joueurs les mieux payés de Ligue 1. Et vous allez voir, il n'y a absolument aucune surprise.
Aucune.
Bonjour Kylian Mbappé, c'est ça? Ok, allez, on en parle dans un instant sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec Paul Lassen, Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Pierre-Édouard Magnan. Et tout de suite, c'est le moment des immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on commence avec la confirmation du jour, et pas forcément une bonne nouvelle pour les Parisiens, Paul.
Oui, la confirmation de la ZTL, la zone à trafic limité du centre de Paris, qui vise à interdire la circulation dans l'hypercentre de la ville aux véhicules sans motif d'arrêt. Eh bien, ça verra bien le jour début 2024, c'est ce qu'a annoncé Anne Hidalgo ce matin. Alors cette zone, elle doit réduire considérablement la place de la voiture dans l'hypercentre de la capitale. Une interdiction contraignante, mais qui ne concernerait pas les riverains. Rassurez-vous, commerçants, personnes à mobilité réduite, employés ou personnes se rendant au théâtre ou chez des amis. Ni les véhicules de secours, bus, vélo, taxi, VTC ou véhicules en autopartage, ça fait beaucoup. L'idée de la mairie, c'est de réduire le trafic dit de transit qui représente 50% du trafic actuel dans la capitale.
Mais en fait, il suffit de dire je vais m'acheter une paire de chaussures.
Mais ça ressemble un peu au confinement.
Oui, c'est ça. Mais ça sert à rien, Daniel Riolo, vous qui habitez
comment
à Paris.
Ça sert à rien.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, ça suffit. Si on t'arrête, il suffit de dire ce que tu vas faire. Bon, tu me diras, c'est pas très. Enfin, bon, voilà, au niveau des libertés, c'est pas génial, mais il suffit de dire je vais chez des amis ou je vais acheter des chaussures et finalement, ce sera pas interdit. Donc en fait, personne ne sera interdit.
Oui, dans ce cas-là, oui, mais effectivement, quand j'ai pris connaissance de la news au départ, c'est pas l'impression que ça m'a donné.
Moi non plus.
J'ai cru que c'était quelque chose qui pouvait ressembler au centre de Rome ou dans certaines villes où ça existe, mais où la configuration de la ville est complètement différente et où tout a été bouleversé. Si on peut encore aller faire ses courses, je vois pas bien à quoi ça sert. Alors, zone à trafic limité, si je peux toujours aller, j'en sais rien, moi, dans le centre, il y a le BHV, par exemple. Tu peux toujours y aller et te garer au parking en dessous et aller faire tes courses et rentrer chez toi. C'est quoi?
Oui, c'est idiot.
Le problème, c'est que, dans le centre d'une ville comme Rome, ce genre de magasin, ça a disparu. Il reste que les trucs pour touristes. Ouais. Et les restos. Donc en fait, ça n'embête plus le Romain. Mais en revanche, Samaritaine ou BHV qui sont dans le centre de Paris, si on faisait une zone ZTL comme à Rome, c'est mort, ils peuvent fermer.
Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas le droit de traverser ce hypercentre de Paris.
Il faut que tu dises que tu as quelque chose à faire.
L'Arc de Triomphe, c'est un hypercentre ou pas?
Non.
C'est 4, 5, 6 et un
2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4 et une partie du 5e et du 6e.
Il y a beaucoup de piétonnes, notamment. Mais en fait, si tu veux aller d'un point A, du nord au sud de Paris en passant par là, tu n'as pas le droit. Il faut que tu aies un. Si tu passes, c'est pour t'arrêter.
On t'arrête et tu dis j'allais justement chez le primeur qui est là.
C'est une incitation au mensonge, en fait.
Moi, j'ai plein d'amis dans le 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement.
Mais voilà, exactement.
Donc tu vas t'y arrêter.
Alors, le problème, genre de mesure, c'est qu'en soi, c'est pas des mauvaises mesures. Le problème, c'est que c'est comme la ZFE, elle devrait arriver au bout d'un processus d'aménagement de la ville, d'organisation de la ville, et quand on s'est prêt, on prend ces mesures qui, au fond, sont de bonnes mesures.
Il y a une vie économique.
Commence par ça, c'est évidemment une catastrophe, parce que ceux qui habitent déjà dans Paris, qui n'ont plus de voiture, ils s'en foutent. Par contre, ceux qui passent, les gens de province qui viennent, ceux qui travaillent, ceux qui viennent de la banlieue vont se le prendre pour eux et vont évidemment considérer qu'ils sont stigmatisés.
Tu fais bien de le dire. Encore la comparaison avec Rome qui ressort souvent quand les gens de la mairie de Paris en parlent. Dans ces arrondissements-là, il y a une vie économique à Paris. À Rome, il n'y a plus de vie économique de ce type-là.
C'est un musée.
Voilà.
Le classement du jour, on l'attend chaque année.
Dévoilé par nos confrères du journal L'Équipe, c'est celui des joueurs les mieux payés de Ligue 1. Et sans surprise, le trio de tête, Mbappé, Neymar, Messi, les trois attaquants du PSG. Alors parlons chiffres, 6 millions d'euros bruts par mois pour l'attaquant français. Neymar deuxième, 3 675 000 euros. Messi troisième donc avec 3 375 000 euros.
C'est peu quand même par rapport à Mbappé.
Oui, c'est pas deux fois moins, mais presque. Pour le premier joueur.
Mal à sa place.
Pour retrouver le premier joueur qui ne joue pas au PSG, il faut aller jusqu'à la 11e place du classement, le monégasque Wissam Ben Yedder avec, entre guillemets, et des grandes seulement 650 000 euros par mois.
Oh là là.
Alors hier, on se demandait s'il fallait être scandalisé par le salaire de Patrick Pouyanné, président de Total, qui gagne 7 millions d'euros sur l'année. Là, on est à 6 millions par mois pour Mbappé. Ça rapporte quand même des impôts à la France. Rappelons qu'il est évidemment à la tranche maximale d'imposition. Emmanuel Dancourt, ça vous scandalise, vous, de gagner
près
6 millions d'euros par mois?
J'étais pas prête.
Surtout, ça n'enlève rien à personne.
Moi, je suis pas économiste du sport comme Pierre Rondeau, qui m'expliquerait peut-être pourquoi cela est très, très, très mérité et tout ça. Moi, ça me scandalise par rapport au reste de l'actualité, forcément. Et en même temps, ces gens-là, ils font rêver beaucoup de gens. Pas moi, mais bon, ils font rêver beaucoup de gens. Et j'imagine que c'est l'économie du foot qui est comme ça. Ça m'intéresserait de savoir dans les autres sports combien ils sont payés, parce qu'on sait que c'est pas ça.
Moi, mais voilà. Généralement.
Non, mais je me dis, je me suis trompée de mec, quoi. C'est surtout ça que je me dis, quoi.
Ah là, tu termines quand même par une phrase d'un matérialisme.
Oui, complètement.
Et d'une misogynie rare.
Excuse-moi, mais là, un mythe est tombé, Emmanuel. Un mythe est tombé.
Daniel, il a deux doigts de se lever.
Emmanuel qui défend la cause d'un coup, il fallait que je me trompe à Marie Blindé.
C'est un mec qui a sorti ça, il serait.
Oh là 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 là.
Tout à l'heure, il y a été parti des gens qui ne partaient pas en vacances. vacances. C'est la première chose que j'ai dit à Pierre. J'ai dit, mais tu pars, toi, en vacances? Moi, j'avais pas les moyens de partir en vacances.
Bah, demandez à Mbappé, coup, vous me sortez, un petit séjour.
Vous sortez le salaire de Mbappé. Alors, évidemment, ça.
Ah, 1200 mais la semaine sur la Côte d'Azur, il s'en fout, ça, c'est sûr.
Pierre-Edouard Magnan, est-ce qu'il y a quand même un moment où ces sommes, elles sont, voilà, sans dire est-ce que c'est mérité, pas mérité, c'est pas l'objet, mais elles sont trop fortes. Enfin, je veux dire, voilà, on lui donne 4 millions d'euros, c'est pareil.
En fait, ça devient délirant. Alors, à la limite, c'est pas Kylian Mbappé qui est en soi responsable, non. D'abord parce qu'il n'est que l'aboutissement d'un système. Après, ce qu'on voit en Ligue 1 et cet écart de salaire, ça n'est que la version caricaturale des inégalités dans notre pays. Et ouais, de ce là, point de vue-là, évidemment, c'est extrêmement choquant, parce que personne n'a besoin de ça pour vivre. Mais j'aurais dit pareil, même déjà 7 millions par an de notre pauvre Patrick Pouyanné, on est à des niveaux où ça devient hors de propos, hors d'appréhension, et effectivement choquant sur les inégalités. Après, au-delà des personnes qui sont bénéficiaires d'une situation qu'ils n'ont pas créée, c'est-à-dire après tout, qui dirait, ah non, 6 millions d'euros, c'est un scandale, je te dis non. Peut-être quelques saints ou saintes qui sont sur cette terre.
Mais tu pourrais dire non, 3 millions me suffisent.
3 millions, je pourrais, mais écoute, si on me propose 6, j'essaierai de dire non, 3 me suffiront. Mais effectivement, le vrai problème, c'est que c'est très révélateur des inégalités dans notre pays, des inégalités de salaire, de plus en plus de gens qui gagnent de moins en moins, et au fond, ça traduit ça, même si ça choque moins, parce que par ailleurs, ils peuvent effectivement faire rêver beaucoup de monde, mais c'est quand même effectivement très choquant. Et après, à l'échelle du sport, effectivement, c'est très choquant par rapport aussi à l'ensemble milieu du sport qui ne vit pas comme ça. Et plein de sportifs. Ah oui, c'est comme dans le monde du spectacle.
Oui, mais c'est ce que tu génères.
Mais c'est pas un bon raisonnement. Si Daniel ça lui est donné, d'abord, ça n'enlève rien à personne. Les impôts sont payés, et même très bien payés.
Patrick Pouyanné non plus. Hein.
C'est juste, en fait, est-ce que le PSG fait bien de payer des joueurs aussi chers par rapport à leur rendement? Pour certains de la liste, c'est une question qui se pose. Mais pour le reste, évidemment, il y a un mec du biathlon va être moins payé, mais il y a moins de gens qui seront devant la télé. Ça génère beaucoup moins de gens, ça crée beaucoup moins d'emplois autour. C'est toute une économie. Que cette économie soit totalement vertueuse, c'est pas sûr, et c'est pour ça que parfois il y a des crises dans le football, des crises économiques, des bulles spéculatives qui provoquent des effondrements. On en a eu il y a 3 ans en France, hein, avec un diffuseur qui n'a pas pu honorer sa promesse financière. Et il y a eu des clubs qui ont été en grande difficulté. D'autres sont venus, et tant mieux. C'est une économie, le foot, qui peut subir également des crises. Après, le salaire, on a le droit de trouver ça totalement démesuré, mais il est donné par une entreprise privée, ça ne prend de l'argent à personne, les impôts sont payés. Pour moi, il n'y a rien à en redire, à part l'analyse sportive qui souhaite dire qu'on donne beaucoup trop d'argent à Neymar par rapport au match qu'il fait. Mais ça regarde les dirigeants, hein, après tout.
Ouais, moi, ce qui me gêne plus, c'est que, je veux dire, en France, il y a énormément de gens, et notamment sur ce plateau, où dès que tu as un grand patron qui gagne ou qui s'augmente, tout le monde crie au scandale. On dit, mais c'est honteux, ça ne ruisselle pas, c'est affreux, etc.
Non, c'est pas exactement pareil.
Est-ce qu'on se demande. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'on se demande si Mbappé, quand il gagne 6 millions par mois, ça ruisselle sur le petit employé du Paris Saint-Germain?
Alors, voilà. Celui qui tient ça, c'est la seule question.
Moi, ça, en fait, c'est ça qui me choque. C'est qu'on tombe toujours sur les. Moi, je suis très contente pour Kylian Mbappé qui gagne cet argent. Mais dans ces cas-là, si on critique les grands patrons qui créent des emplois, je pense qu'aujourd'hui, un grand patron crée plus d'emplois que Kylian Mbappé.
Et lui, on se plaint du rêve, c'est pas du tout pareil.
Oui, mais on ne se plaint jamais. Je veux dire que Kylian Mbappé, effectivement, son salaire, et tant mieux pour lui, il ne ruisselle pas sur les petits salaires des gens du PSG.
On fonctionne à l'affectif. Et voilà.
Oui, on fonctionne à l'affectif.
Mais oui, mais à un moment,
qu'on a des attermoiements sélectifs. Même si t'es pas un fan de foot, alors que le patron de Total, il va quand même avoir du mal à nous faire rêver, parce qu'en plus, Total est quand même une entreprise.
La seule question est celle qu'a posée, Estelle. Et je peux même lui dire que chez Total, le salarié qu'on va appeler salarié de base, aura certainement un plus gros salaire et plus d'avantages que les petites mains du PSG.
Mais bien sûr, Daniel, voilà. Évidemment.
Mais la réponse qu'on te donnera à ce moment-là, même si moi, effectivement, je trouve que, en plus, ils sont au contact, tu sais, des fameux intendants qui sont là sans arrêt, à leur porter les maillots et tout, et qui, effectivement, eux sont, en comparaison, vraiment pas du tout payés comme ça, et plutôt même, on va dire, socialement maltraités. Mais on va te dire, si on ne lui donne pas, il ira jouer à l'étranger. Et s'il va jouer à l'étranger, c'est une perte. C'est une perte pour l'attractivité de ton championnat et pour l'économie du football français. Ça va être également une réalité.
Et encore une fois, on ne soulignera jamais assez qu'il paye des impôts et que qu'il en paye beaucoup. Et que donc, grosso modo, sur ces 6 millions.
Oui, parfois, ça peut même être le club qui lui paye. Oui. Là, c'est encore.
Enfin, sur ces 6 millions, oui. t'as 2 ou 3 millions qui vont quand même dans les caisses de l'État chaque mois. Sûr. Et ça, c'est plutôt pas une mauvaise chose. La pénurie du jour.
Oui, celle qui s'installe dans les stations-service de la région parisienne. Selon le site collaboratif Pénurie Mon Essence, aujourd'hui, au niveau national, 390 stations sont en rupture totale. Oui. C'est un tout petit peu moins qu'une dizaine de jours. Donc, au niveau national, ça se stabilise. Mais en Ile-de-France, ça s'accentue. À Paris, 29% des stations-service enregistrent des difficultés. Un chiffre qui atteint plus de 38% dans le Val-de-Marne ou dans les Hauts-de-Seine.
Ça m'arrange pas du tout.
Non, ça ne vous arrange pas.
Heureusement que j'ai fait le plein. Vous êtes inquiet de ça, Emmanuel Lencourt? Je me souviens, vous aviez les larmes aux yeux en novembre avec les pénuries d'essence. Vous ne saviez plus comment vous déplacer. Est-ce que là, vous avez des jerrycans dans votre garage?
Pas du tout, parce que nous, on n'a pas de soucis dans ma région. C'est franchement, j'ai vu quelques personnes remplir des jerrycans. Là, je suis pas inquiète, parce que j'en trouve partout. Je suis pas concernée. Je suis désolée pour vous. Vraiment, je suis désolée pour la région parisienne. Mais j'arrête pas de dire, venez en Bourgogne. Je sais plus comment le dire.
De toute façon, on pourra plus rouler en voiture dans Paris. Il y a plus besoin d'essence.
Oui, c'est ça. Si. Tu pourras t'arrêter dans Paris.
Mais tu n'as pas besoin d'essence pour t'arrêter.
Tu pourras t'arrêter pour faire de l'essence, mais tu ne pourras pas.
Oui, bonne idée. Je vais faire le plein, monsieur l'agent. Il n'y a plus que là qu'à de l'essence.
Si j'étais toi, par souci d'économie, je n'irais pas faire le plein.
Mais c'est vrai qu'il m'arrive d'apercevoir les tarifs du litre. Vaut mieux station essence dans Paris, c'est délirant.
Ouais. Le chiffre du jour.
72 351. C'est le nombre de détenus dans les prisons françaises au 1er mars 2023. Une légère hausse qui suit celle déjà recensée en février et pas très loin du plus haut historique enregistré en décembre. Plus de 72 000 prisonniers pour seulement 60 949 places opérationnelles, soit une densité carcérale globale de 118%. Et plus d'une cinquantaine de prisons en France affichent aujourd'hui une densité supérieure à 150%.
Alors moi, je ne comprends pas, parce qu'on nous avait dit qu'il fallait désengorger les prisons, donc s'il y a plus de monde...
Non, c'est surtout qu'il faut en construire.
Ah bon?
Ah bah là, il va falloir en construire, oui, il y a beaucoup, oui. Après, les gens ne vont pas vouloir que ce soit près de chez eux, donc il va falloir trouver les endroits où les mettre, mais il va falloir en construire, puis ça peut créer des emplois de fonctionnaires. Oui, l'administration pénitentiaire recrute.
Il recrute parce que personne ne veut faire ce boulot.
Et il va falloir
réfléchir à des sanctions autres que la privation de liberté, parce que on met aussi des gens en prison qui en ressortent pire qu'ils n'y sont rentrés.
Il va falloir les mettre aussi dedans. On ne peut pas laisser tous les fous en liberté non plus.
Alors d'abord les fous.
Ils devraient être en hôpital psychiatrique et pas en prison, c'est ça le problème.
Les fous, c'est une façon de parler. Pardonnez-moi pour l'utiliser.
Il y en a beaucoup en prison.
Tu préfères
parler de la psychiatrie parce que beaucoup de malades.
Mais non, je ne parlais pas de ça.
Malheureusement,
je ne parlais pas.
Mais tu as soulevé un lièvre.
Non, je ne parlais pas de ça.
C'est votre question, mais c'est ma réponse.
Exactement. Ça vous choque, Emmanuel Lencourt, qu'il y ait de plus en plus de gens en prison, et parce qu'on se doute que c'est pas tous les jours en prison, c'est pas forcément pour des énormes délits, alors qu'on nous avait promis qu'effectivement il y aurait plus de libération conditionnelle, plus de bracelets électroniques.
Moi, je pense à tous ceux qui devraient y être et qui n'y sont pas.
Je vais revenir encore aux violences sexistes et sexuelles.
On sait que la justice est dépassée, que la police est dépassée, qu'ils n'ont pas les moyens. Et je suis pas une spécialiste du dossier, je ne fais que le constat navrant que l'on fait là, avec une densité carcérale à 118%. On sait les réinsérer, et t'as raison, beaucoup se dégradent à cause de cette densité, puis d'autres se radicalisent aussi. Les prisons françaises, c'est un sujet, mais il faudrait passer 3 heures d'émission, quoi, en fait.
On a du temps, parce que c'est fini, malheureusement. Ah bon, d'accord. Et on va retrouver tout de suite Vincent Moscato, le super Moscato Show.
Attendez, j'ai mon bracelet électronique, là, vous m'entendez?
En liberté, Vincent?
Ouais, non, mais j'ai un bracelet électronique. La Guyane française, papillon, voilà.
C'est un grand film, hein, Vincent.
Ouais, c'est bon, Dorfman, avec qui j'avais tourné après Vercingétorix. J'avais tourné un film Dorfman avait tourné Vercingétorix, c'est lui qui avait fait le fameux L'Armée des Ombres de Kessel, le bouquin de Kessel de Melville, réalisé par Melville.
Ce qui comprend rien, c'est que
t'es bouché à l'émérite, je te le dis. Bulls, voilà, en Coupe d'Europe, Laurent Blanc, au PSG, c'était mieux. Les Bulls de Pretoria, l'ancienne capitale d'Afrique du Sud. Pretoria, voilà.
Est-ce que vous pouvez remettre les mots dans l'ordre? Parce que là, je ne comprends plus rien. Là. On est parti de Toulouse, de Poule.
Alors, le monsieur que disait. Le monsieur disait à la vieille dame qui comprend que dalle. Alors, en Coupe d'Europe, Toulouse, les Bulls rencontreront les Bulls de Pretoria.
Ah, les Bulls de Pretoria, ouais. D'accord.
Mais oui, en Coupe d'Europe, ils jouent des Sud-Africains. Tu conviendras que c'est un peu bizarre,
oui,
quand même.
Ah, c'est pour ça que
vous compreniez pas. Mais oui, ma poulette, c'est pour ça. J'attendais, c'était le piège. Les Bulls de Chicago, puis la Coupe d'Europe avec des provinces sud-africaines. On n'y comprend plus rien. Le monde,
ah oui, non, mais c'est qu'on prenne.
Laurent Blanc. Non, mais vous avez.
T'as bien mangé.
Le fantasme Laurent Blanc au PSG. C'était mieux avant, Laurent Blanc.
Mais qui a ce fantasme?
Qui a ce fantasme, Vincent?
Et vous? Toi, Daniel? Ah
non, j'ai pas ce fantasme là du tout, moi, c'est plutôt un cauchemar.
Non, mais fantasme, l'idée que Laurent Blanc était bon autrefois au PSG.
Personne n'a jamais dit ça. Hein.
Il était très bon.
Si toi tu le disais,
Gilbert Bribois. Laissez-moi partir.
Ah oui, Gilbert Bribois, tu disais. Ouais, Laurent Blanc par-ci, Laurant Blanc par-là, c'était le meilleur, c'est toi, Daniel.
Jamais de la vie.
Moi, je l'ai dit.
C'est quoi? Vous comprenez pas mes débats? Vous ne méritez pas. Je m'en vais. Et je vous souhaite pas une bonne soirée à vous tous. Voilà. J'espère qu'il va vous pousser des trucs
vous
dans le
monde de cuir. Allez.
Voilà. Peut-être qu'il voulait parler de Dustin Hoffman, mais j'ai un doute.
Je n'ai rien compris.
Dorfman, producteur Robert Dorfman. Qu'avait fait Papillon et qui a fait Versailles Gétoriste dans un navet dans lequel j'ai tourné sur la fin de sa vie.
Ah, d'accord. Là, je comprends maintenant.
Avec les Chicago Bulls de Pretoria.
D'accord. Bon, le super Moscato Show avec Vincent en grande forme, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve demain, midi 15h.
Quand je vais te voir, là, je vais te tirer les oreilles en pointe.